Penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour à tous et à toutes, c'est notre deuxième épisode de l'émission Les empreintes musicales qui commence sur votre radio préférée. Aujourd'hui, nous reprenons l'histoire du parcours de Gilles Retel, le guitariste fondateur avec Philippe Pascal du groupe Rennais des années 80, Marc Seberg. La séquence précédente nous présentait sa jeune enfance à Saint-Malo puis son arrivée sur Rennes. Le guitariste que nous entendons aujourd'hui a composé le titre Smile du premier album de Marc Itzad, Dancing Twist. Au programme de cette 30 minutes d'émission aujourd'hui, Gilles Retel nous expose les tout débuts de l'histoire de Marc Seberg et notamment de la composition musicale du premier album du groupe 83. Bonjour Gilles Retel.
Bonjour Franck.
Aujourd'hui, on évoque avec vous vos débuts de musicien et votre intégration au monde de la musique à Rennes. On est là au tout début des années 80. Donc vous arrivez en 79 à Rennes et vous êtes tout de suite un peu immergé dans le bain musical. Ces toutes premières notes qui feront de Rennes sa renommée nationale puis internationale. Et donc, vous n'imaginiez pas tout ce qui se passait autour de vous et autour du festival des transmusicales, autour du groupe Marc Itzad. Il y a vraiment toute une émulation entre vous.
Oui, enfin, ça ne se passe pas comme ça pour moi. Moi, j'essaye de jouer, je suis concentré sur ça, j'essaye d'avancer dans la musique. Ce que je ne comprends pas, parce que je ne le sais pas, c'est comment marche le monde de la musique, comment on signe un contrat, c'est tous ces aspects-là. Et ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi d'un seul coup, là, des gens à Paris, des journalistes créent une petite société de production pour produire. Là, tout ça, ça m'échappait totalement, là, vraiment. Moi, j'ai jamais été totalement partie prenante de cette scène-là. Enfin, bon, je faisais partie de Marc Seberg, mais moi, je sors très peu le soir, je me drogue pas, je bois pas d'alcool. Donc ça faisait un profil assez particulier, quelqu'un qui faisait de l'aïkido, on en reparlera, déjà à l'époque, qui était sans doute déjà végétarien, donc ça détonnait un peu quand même dans ces années-là, hein. Donc je détonne toujours d'ailleurs dans certains milieux. Donc non, je croisais des gens évidemment, hein. On avait un QG à l'épée, je sais plus si ça existe. Hein. Je comprenais pas ce qui se passait, quoi. J'avais bien l'impression que j'avais aucun contrôle, et je confirme, j'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. Donc j'avais déjà du mal, moi, à maîtriser ce qui se passait par rapport à moi. Ça voulait dire quoi,
Gilles Retel?
Enfin, il y a un saut d'un seul coup là entre on rêve quand on est étudiant ou en tout cas ado, de faire de la musique, peut-être d'en faire sa vie, d'en faire son métier.
Guitariste de Marc Seberg.
D'un seul coup, il y a cette porte qui s'ouvre, hein, alors qu'on voit bien qu'en France, il n'y a rien de possible là-dessus. Et pourquoi maintenant? Je comprenais rien. Franchement, je comprenais rien. Voilà. Et
alors, vous disiez aussi, avec votre hygiène de vie, peut-être un petit décalage aussi avec les excès que peut représenter cette vie de rocker au tout début des années 80.
Oui, c'est clair, il y a un décalage. Et le problème, c'est que j'avais un décalage partout, en fait. Quand j'étais à l'aïkido, j'étais celui qui faisait du rock. Quand j'enseignais, certains avaient vu dans mes étudiants ou dans mes lycéens que j'étais un rocker. Et quand je faisais du rock, j'étais en même temps un prof. Donc, j'étais décalé partout, moi.
Pendant ce temps-là, donc, vous êtes enseignant, hein, c'est ça. Vous enseignez les physiques et les mathématiques.
Ouais. Alors, si on veut être précis, enfin, c'est la mémoire, c'est compliqué. Donc, en fait, je fais mon service militaire en 79. Hein. Donc, c'est le moment où on fait l'album. Je dois être démobilisé en septembre 79. J'ai fini mes études et donc là, je me demande ce que je vais faire hein, puisque je ne suis plus avec Marc Itzan. Et je vois par hasard, complètement par hasard, une annonce à la fac à Rennes 1, qui propose un poste de maître auxiliaire au lycée Jacques Cartier à Saint-Malo. Et je me dis, bah, c'est l'occasion de se faire un peu de sous. À l'époque, de mémoire, on est colocataire avec Philippe. Hein. Oui, 2-3 ans, il y a un moment, ça va moins bien se passer avec sa femme à lui. Donc c'est lui qui va partir et moi je vais rester colocataire avec sa femme encore un petit bout de temps.
Ah, parce que sa femme était aussi dans la colocation.
Absolument, oui, 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 absolument. Et en fait, c'est des moments importants pour moi parce que donc on est en... Ça, cet argent-là va me permettre quand même d'acheter du matériel.
Les empreintes musicales.
Et donc là, j'achète une guitare, un ampli. Là, c'est un moment important, là, pas simplement pour moi. Sort à ce moment-là, en 79 de mémoire, le premier Porta Studio. Alors, tout le monde a oublié ça, mais c'est le premier magnétophone 4 pistes avec une mixette intégrée sur cassette. Hein. Et donc cet outil-là, c'est globalement cet outil-là quand même qui m'a permis de régler le problème que j'avais dans l'autre entretien sur la composition, parce que j'ai commencé à faire des maquettes en fait, hein, voilà.
Donc avec un premier 4 pistes, oui. Donc il fallait investir, et donc voilà, pour se faire plaisir, hein, ça c'était un peu du plaisir au oui. Tout début quand même, où vous imaginiez quand même un petit
oui.
Peu...
Oui, clairement, c'était assez clair dans la tête de Philippe que Marc Itzan n'allait pas continuer. Et donc, il avait déjà cette idée de faire autre chose après et que ce serait avec moi. Oui.
Investir dans du matériel, de performer sur la composition, sur, sur l'apprentissage de, encore un peu plus de l'instrument. Et pour tout ça, donc, il fallait bien remplir son frigo et pour se faire plaisir aussi, donc enseignant. Donc, au lycée Jacques Cartier de Saint-Malo.
J'étais maître auxiliaire, hein, donc c'était sur des contrats très courts. Hein. Moi, j'ai enseigné à Saint-Brieuc, à Rennes. Bizarrement, l'autre jour, je suis tombé sur quelqu'un que j'ai croisé et qui m'a dit « Je vous ai eu comme professeur à Vitré. » et elle m'a dit « On a tout de suite compris que vous étiez un rocker. » Et du coup, c'était génial. Moi, j'ai aucun souvenir, évidemment, de cette personne-là. Hein. Mais donc, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de postes, en fait. Hein. Maître auxiliaire, remplaçant, là, on tournait sans arrêt.
Donc, Marc Seberg, 83, le premier album, ouais. C'est ça. Donc, tous ces mois-là, 82, 83, vous êtes encore enseignant, maître auxiliaire, ouais. Et vous composez, vous commencez à préparer quelques titres. Avec Philippe, tous les deux, un duo ?
Non, non, on sait bien que ça ne va pas être un duo. Hein, et donc,
La composition au départ, en tout cas.
Ah oui, oui, la composition, c'est que nous deux. Le premier groupe, en fait, qui fait la maquette en septembre 81, ben, c'est des gens qu'on connaît encore bien aujourd'hui, puisque c'est trois musiciens de Fracture, en fait, hein, dont Serge Papaye à la basse. Et là, ces trois-là vont s'arrêter, pour des raisons diverses d'ailleurs, hein, pas les mêmes. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va recruter, entre guillemets, Pierre Thomas à la batterie et Pierre Corneau à la basse, qui eux étaient dans un groupe nantais qui s'appelait Private Jokes. Mais Pierre Thomas, lui, avait déjà joué sur le premier 45 tours de Marc Itzan. Donc là, on a fait une deuxième maquette, hein, toujours au studio DB, donc je ne me rappelle pas, mais ça doit être avril par là, 82. Donc c'est là-dessus que Virgin nous signe pour un album. Et cet album, on va l'enregistrer courant de l'hiver 82-83.
Comment s'est fait cette connexion, alors, justement, avec Virgin et...
Virgin, c'est un label créé par Richard Branson, qui est créé par l'album de Michael Field, en fait, hein, Tubular Bells. C'est son premier grand succès. C'est ça qui crée, en fait, Virgin, quasiment. Hein. Donc c'est un tout petit label, en fait. Hein. Il sera racheté après par EMI. Mais effectivement, qui a pas mal de succès et qui est assez important au niveau du début des années 80. Et parce que c'est un label qui devient important, eh bien, il essaye de créer des filiales dans plusieurs pays, dont la France. Et le directeur artistique se trouve être Thierry Houpet, qui était celui qui avait signé, en fait, Marc Itzan. Donc, évidemment, la connexion a été immédiate.
Rennes est encore assez important pour vous. Ça se passe encore beaucoup là. Le premier album, la composition, l'écriture de tous ces titres-là se fait encore toujours à Rennes.
Tout Marc Itzan se fera à Rennes.
Non, Marc Seberg.
Marc Seberg, pardon. Non, mais je pense Marc Itzan parce que, du coup, j'ai un souvenir... de la signature des contrats d'édition à Paris, rue de Belleville, chez Clouseau, musique. Tout le monde a oublié tous ces noms-là. Et, le patron, c'était Philippe Constantin, un type qui a été très, très important à ce moment-là. C'est lui qui a signé Higelin, Téléphone. Pas en disque, hein, en édition. Et je me rappelle très bien que le jour où on a été dans cette... c'était très, très bizarre. C'était plusieurs appartements qui étaient reliés entre eux. Eh bien, il y avait une petite gemme, une petite improvisation avec le musicien de Téléphone, là, par exemple. Hein. Tout Marc Seberg, on restera à Rennes. C'est sans doute d'ailleurs une des raisons qui nous a plombés en termes de carrière. Hein. Je pense que ça aurait été plus simple si on avait été à Paris. Et donc on signe avec le patron Patrick Zemnik à Paris, probablement en 82. Hein, je dois avoir le contrat original encore. Hein. Oui, on ne va pas rentrer dans l'histoire des contrats, parce que c'est un contrat bizarre, c'est un contrat anglais. Hein, ce n'est pas un contrat français. Ça veut dire qu'en fait, on a un plus gros pourcentage, mais du coup, c'est... le budget d'enregistrement, il est pris sur nos avances, quoi. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. De mémoire, c'était peut-être même pour 5 albums.
Dès le départ, vous signez chez Virgin pour 5 albums. Donc vous savez que vous, encore à Rennes, vous savez que vous avez suffisamment de matière et d'envie de faire pour perdurer pendant au moins 5 albums. Vous avez de la matière.
Ah bah de la matière, on la crée, hein. On est des créateurs à ce moment-là. Hein. On a juste la matière pour faire un premier. Après, on verra. Hein. On n'arrive pas en disant on va signer 5 albums parce qu'on a déjà la matière pour 5 albums. Ça n'a pas de sens, ça. Non, on a la matière pour un. Mais évidemment, par contre, on espère bien se projeter sur une carrière professionnelle musicien. C'est quand même plutôt assez cool, quand même.
Les empreintes musicales.
Micro à l'âge.
Micro à l'âge est une chronique dédiée au témoignage des usagers des chemins de halage sur les canaux de Bretagne. Micro à l'âge, c'est l'un des moyens que nous avons trouvé pour ralentir, prendre le temps et contempler ce qui nous entoure. Micro à l'âge n'est pas un micro-trottoir. Dans cette chronique, on ouvre notre micro au public de l'intérieur, de la campagne, des amoureux d'une nature épargnée, loin des massacres du béton armé, des périphériques asphaltés et d'une population surdensifiée. Notre micro prend son temps à l'écoute d'autres gens. Aujourd'hui, notre première chronique micro à l'âge, c'est le début de l'année et des grandes résolutions que tout un chacun a le droit de prendre et le droit ou non de respecter. Une micro-chronique pour écouter ce qui fait l'actualité des résolutions 2020 en Bretagne. C'est quoi tes bonnes résolutions 2020 ?
Dormir un peu plus. Et...
sortir moins.
Non, en vrai, ma vraie résolution de cette année, c'est vraiment de me donner au meilleur pour mes résultats scolaires, pour mon avenir. J'aimerais... c'est quoi ça ? J'aimerais passer mon code cette année. Pendant mon année de seconde. Vu que j'ai pas de concours, je me dis que je pourrais consacrer ça sur mon code. Je veux faire du sport parce que je trouve que j'en fais plus trop. Genre, je veux me défouler plus que je le fais là. Donc voilà, faut que je bouge mes fesses.
On va commencer la muscu, avoir le bac, réussir à rentrer dans une école qui pourrait être bien l'année prochaine et avoir le permis et trouver du taf cet été. Mais normalement, ça devrait le faire.
C'est quoi tes bonnes résolutions 2020 ?
On n'est pas très bavard là-dessus. Puis,
est-ce que vous vous rappelez des bonnes résolutions de l'année dernière, déjà, 2019 ?
On n'a même pas...
Vous n'avez pas fait ?
Non. On ne fait jamais ce genre de choses. On ne tient rien du tout. On va promettre, ça va être des promesses hypocrites. Alors c'est pas la peine.
Mais jamais de l'année, vous avez jamais dit... Bon, je boirai moins de vin rouge, je mangerai moins de...
On boit déjà que de l'eau. Mais on n'a aucun défaut, monsieur. Aucun défaut.
J'irai moins à la pêche.
Ah, ça ?
Non.
Ça ?
J'espère aller encore beaucoup à la pêche.
Ah, ça c'est une bonne résolution,
oui,
alors.
Ça c'est une résolution, là. Oui.
D'accord.
Qu'est-ce que je prends comme résolution, ouais. Moi ? Vous êtes heureux, c'est tout. Alors, l'argent ? J'ai rien pour 2020. Déjà, je fume plus. Mais j'ai pas de résolution, moi je m'y tiens pas à chaque fois. Ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Moi, j'ai... Non, je ne...
maintenant.
Je suis parfaite. La perfection, ça se change pas.
Fondamentalement, là, sur ce premier album, c'est moi le compositeur et c'est Philippe qui fait les paroles. Voilà.
Gilles Rethel.
Se pose cette question très très compliquée dans un groupe, de la signature, de la co-signature des morceaux.
Guitariste de Marx Berg.
Fondamentalement, c'est moi le compositeur sur le premier album. Autant je me posais la question avec le premier Marquis de Sade, là je me pose plus la question, même si j'ai encore plein de trucs à apprendre évidemment. Hein. Mais effectivement, en tout cas, j'ai assez de capacité là pour effectivement produire assez de titres pour un album et puis de commencer à voir comment ça peut aller. Pour Philippe, enfin il l'a dit, hein, et je suis assez d'accord avec lui, hein, le premier album de Marc Seberg, c'est le deuxième de Marquis de Sade en fait. Hein. Parce que vous le savez bien sans doute que c'est ce qui aboutira au clash de Marquis de Sade. Là, il y a divergence de point de vue, on va dire, artistique, hein, avec Franck et Philippe. Franck est allé à New York, il voit plutôt un côté funk blanc, dansant, et ce qui n'est pas du tout, à ce moment-là en tout cas, la vision de Philippe qui préférait continuer sur ce qu'on avait fait sur le premier Marquis de Sade.
À la composition de ce premier album, quelles sont vos inspirations? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser transparaître, qu'est-ce que musicalement, est-ce que on a parlé du Velvet, des Stooges, on est dans plein au tout début des années 80, l'apparition un peu d'une certaine musique assez froide.
Un des enjeux du rock et de ce qu'on appelle aujourd'hui musique actuelle, c'est d'apprendre en faisant. Voilà. Donc c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je savais pas composer, et on va apprendre à composer en faisant un album. Donc effectivement, il y a des influences. De toute façon, tout ce que j'ai écouté est une influence. Mais en même temps, Philippe donne des directions assez précises hein, dans ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Donc les grandes inspirations, en tout cas, ce qu'on écoute, pas forcément d'inspiration, mais ce qu'on écoute à l'époque, c'est sûr que Joy Div est important. Television est très important. Et c'était déjà important dans... dans Marquis de Sade, hein, mais c'est plus du côté du jeu de guitare de Television que j'ai été chercher des idées, pas directement, hein, mais une imprégnation, quoi. Donc c'est vrai que le jeu sur le premier album est pas mal à base d'arpèges, avec des accords qu'on appelle ouverts, hein, avec beaucoup de notes, des cordes à vide, un type de jeu dans lequel je suis toujours à l'aise, en fait. Hein. C'est vraiment ça qui... Enfin, j'aime bien ce type de jeu, oui. 79, l'apparition de ces premiers 4 pistes sur cassette, ça a vraiment été une révolution. C'est l'époque aussi où on commence à avoir beaucoup de boîtes à rythme. Donc, moi, je fais des propositions. Je fais des maquettes hein, dans lesquelles, effectivement, il y a basse, guitare, batterie, avec des idées de mélodie. Maintenant, la base dans un groupe de rock, hein, c'est que chacun est responsable de sa partie quand même. Hein. Donc ça veut dire que je fais des propositions et puis le musicien se l'approprie ou change quelque chose. Et Pierre Corneau, le bassiste, là, a toujours été plutôt une source là, de création. Là. Il a toujours trouvé des idées qui relançaient un petit peu les compositions. Mais je répète, hein, puisque c'était la question, cet outil-là, qui est tellement banal aujourd'hui, mais qui est totalement neuf à ce moment-là, de créer des maquettes avec un 4 pistes, oui, c'est vrai que ça m'a formé à la composition. Oui.
Et donc, alors, cet album sort, 83, de Marc Seberg, signé donc chez Virgin. Et alors, comment on reçoit le public ce premier album? Comment vous vivez ce moment-là? C'est quand même d'avoir un 33 tours réalisé vraiment intégralement, pratiquement par vous. C'est quand même quelque chose dans une vie.
Oui, oui, on est plutôt fiers, c'est sûr. L'accueil critique est plutôt bon. En même temps, on se doute bien, ou en tout cas, on sait, aujourd'hui, ce sera encore plus clair dans ma tête, mais qu'on est sur quand même un créneau assez dur en termes de musique, hein, et que le public... C'est le moment, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais avec Marquis de Sade, j'ai fait la première partie, on a fait la première partie de Téléphone hein, à la salle des Robiens à Saint-Brieuc. Et donc, là aussi, on parlait de décalage tout à l'heure, là, il y avait un franc décalage entre la musique de Marquis de Sade et puis celle de Téléphone. Et le Téléphone et Tross, c'est les deux grands groupes populaires à ce moment-là. Donc, c'est assez clair que nous, on est là sur une tendance, une couleur de rock qui va avoir du mal
à séduire le grand public.
À séduire le grand public et donc, du coup, par voie de conséquence, la possibilité d'en vivre quand même. Hein.
Vous le savez, ça, assez rapidement ?
Non, honnêtement, non. Aujourd'hui, ça paraît assez évident. Hein, mais quand on regarde... j'ai souvent dit ça. Hein, le problème qu'on a eu, nous, c'était qu'on était un groupe français. Parce qu'en fait, il y a des groupes anglais, en tout cas au départ, hein, comme Simple Minds, dont on était assez proche. Il y avait le disque produit par... réalisé par Stevie Letch, par exemple, a été plutôt une inspiration pour nous. Hein, donc avant qu'il soit très, très connu. Et ce groupe-là, ils vendaient pas plus que nous, en fait, en Angleterre. La différence, c'est qu'ils vendaient dans 20 pays, quoi. Alors c'est que ça. Nous, oui, et que nous, on vendait qu'en France.
Vous sentez que vous ne serez pas forcément sur une catégorie musicale qui plaira au plus grand nombre ? Pas trop de musique. Est-ce que là, vous pensez que vous arrivez sur une musique un peu élitiste hein, et du coup un peu moins populaire ?
Élitiste, sûrement pas. Hein. On n'a jamais pensé à ça.
Gilles Retel.
Populaire, moi, je n'ai pas les outils à l'époque pour comprendre ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ce serait différent. Hein.
Guitariste de Marc Seberg.
que ce soit en termes sociologiques ou artistiques, ça renvoie à l'entretien de tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui est beau en fait, qu'est-ce qui plaît. Nous, on fait notre musique. Là, il n'y a pas de compromis sur le premier album. Hein. On fait notre musique, hein, comme la plupart des groupes, en fait, hein, américains ou anglais. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile à vivre après, de voir que... Ben, on n'arrive pas à fédérer assez de public autour de nous pour en vivre, hein, tout simplement.
De même façon que Marc Itzad cassait un peu pas mal de codes dans la musique en France, Marc Seberg aussi arrivait avec ce projet-là, était vraiment créatif. Vous imaginiez des choses qui n'avaient pas été forcément faites auparavant.
Ben, je ne vois pas l'intérêt autrement. Hein. Non, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Si c'est pour faire la musique que d'autres ont déjà fait. Une des caractéristiques aussi, donc même si nous, là, on sort de notre jeunesse, hein, mais la plupart des groupes français sont plus vieux, à l'époque en tout cas, sont plus vieux que les équivalents anglais, hein, parce qu'il n'y a pas le métier autour. Il y a un air du temps, clairement. Et donc, si c'est pour faire du rock'n'roll des années 50, ça n'a aucun intérêt. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais ça a été fait. Une des caractéristiques du rock, des musiques actuelles, et donc aujourd'hui des musiques électroniques ou du hip-hop, hein, même s'il y a des parties plus populaires, plus accessibles, on va dire, c'est qu'il y a un air du temps et on fait avancer les choses. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
Est-ce qu'il y a déjà des premiers concerts qui s'annoncent ?
Je ne me rappelle pas trop, hein, c'est un peu bizarre de dire ça, hein, mais je suis à peu près sûr, mais ce serait facile à vérifier, hein, qu'on a fait des concerts avant, et en particulier le premier concert, là c'est sûr, c'était à Angers, et donc ça devait être 82, je pense. Bon, je me rappelle aussi un concert en première partie de Orchestre Rouge qui devait être à Auray, par exemple, et je me pense que c'était au printemps 82. Donc il y a eu des concerts avant, oui. De toute façon, le groupe de rock, en tout cas en plus en France, si on ne fait pas de concerts, enfin, on ne peut pas vivre, là, c'est clair. Je pense qu'il y a quelques dates, pas de festival, mais de concerts un peu particuliers l'été, par exemple, hein, avec des groupes comme Kalachnikov, avec Dominique Sonic et des choses comme ça. Mais en tout cas, pas de tournée construite, non.
Oh,
Gilles Rethel, notre invité du jour pour cette entrevue. Et merci à Christophe du bar Le Panama à Rennes pour la mise à disposition de son lieu. On se donne rendez-vous pour ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bise, bisette, bisous, ciao, kenavo, à bientôt.